Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Les grands témoins européens, épisode 2. Nous recevons aujourd'hui Emmanuel de Marcimota. Bonjour, merci d'être là. Pour vous présenter, Emmanuel de Marcimota, on peut dire que vous êtes metteur en scène, franco-portugais, directeur du Théâtre de la Ville. Vous êtes un grand promoteur du théâtre auprès de la jeunesse, instigateur en 2010 du rendez-vous Chantier d'Europe, dont la 10e édition aura lieu du 8 avril au 2 juin prochain. Et vous allez nous exposer votre vision de l'Europe, du Portugal, puisque je vous ai vu réagir tout à l'heure pendant les informations. Mais avant, on va parler de la Suisse. La Suisse est un peu en Europe et on a appris, hélas, hier, la disparition de Jean Starobinski à l'âge de 98 ans. Jean Starobinski était un grand critique littéraire. Il a notamment travaillé sur Rousseau, sur Stendhal, sur Racine. Et puis, il avait, en tant que Suisse, puisqu'il est né et mort en Suisse, une passion pour un auteur suisse, un romancier, homme de théâtre, Ramuse, qui a beaucoup écrit sur le régionalisme suisse, qui a travaillé la langue française, et Ramuse est quelqu'un que vous avez croisé, parce que votre première mise en scène, je crois même, était une pièce de Ramuse, une pièce musicale. Parlez-nous de la manière dont vous avez parlé de Ramuse avec Starobinski, Emmanuel de Marcimota.
La chance de rencontrer Jean Starobinski à Genève, où j'étais dans les années 90, à la Comédie de Genève plus exactement. Et en fait, je l'ai rencontré, la rencontre que j'ai eue avec lui était sur Rousseau d'abord, parce que j'avais une passion adolescent pour Rousseau, et en particulier un livre qui est les rêveries du promeneur solitaire. Parce que les rêveries, c'est un mot, je pense, important, et qui me parlait beaucoup dans mon rapport au théâtre, mais aussi notre réflexion sur l'existence. Et ensuite, la notion de solitude, et aussi la promenade. Donc, Starobinski ayant écrit dans les années 50, je vais essayer de vous expliquer précisément, parce que c'est entrelacé de trois faisceaux, si vous voulez, cette rencontre. Je reprends, c'est-à-dire celle autour de Ramus, celle autour de Rousseau, et puis l'idée qu'on peut avoir alors du théâtre et du visible et de l'invisible. Et Starobinski, y compris quand il écrit sur Rousseau dans les années 50, se pose la question de l'objet du désir et comment rendre visible ou comment peut apparaître ou où sont les obstacles qui font que certaines choses n'apparaissent pas. Bon, sans trop détailler sur cette pensée-là.
Oui, c'était une interrogation importante chez lui, le désir, la transparence.
Voilà, exactement. Ces thèmes-là. Donc, et que moi, ça m'intéressait énormément. J'étais aussi étudiant à ce moment-là, à l'université, et tout ces thématiques qui ont à voir finalement avec ce dont on va parler certainement aujourd'hui, justement de ce qu'on peut appeler l'apparition de certains phénomènes anciens, ancestraux, profonds, violents d'ailleurs, du rejet de l'autre, de la peur de l'autre, pour pouvoir travailler sur ces questions fondamentalement, puisque on pourrait dire que ce sont des archaïsmes. Ces archaïsmes que l'on retrouve dans l'idée du diable. Et cette idée du diable, y compris dans la religion chrétienne, si vous voulez, à quel moment le diable apparaît? Il n'a pas toujours été présent dans la religion. Donc pourquoi il y a le diable? Alors avec Starobinski, ce qui était intéressant, c'était à Genève, ça a été toute cette discussion. Ça a été cette discussion, on partait de Ramus, qui est effectivement celui qui a écrit, alors vous l'avez dit, l'histoire du soldat, avec cette pièce musicale avec Stravinsky, l'histoire du soldat, et puis ce conte qui est à l'origine de l'histoire du soldat, qui est un conte russe, un conte que vous retrouvez dans le recueil russe d'Afanassiev, qui a recueilli tous les grands contes de la tradition orale et de la grande question de l'oralité. Et vous l'avez aussi dans des contes africains et dans des contes portugais, justement. C'est-à-dire quand l'oralité a voyagé en Europe, mais aussi a fait ce lien et ce pont avec l'Afrique, et puis ce lien et ce pont avec l'Asie. Donc nous avons beaucoup de contes traditionnels et de grandes traditions qui viennent justement de ces voyages entre plusieurs continents. Mais c'est un point fondamental. Et de ça, Ramus le Suisse, le Genevois, écrit l'histoire du soldat, qui est ce jeune soldat déserteur qui refuse de faire la guerre, qui va rencontrer le diable. Et le diable va le rattraper, il va faire ce pacte avec le diable. Si vous voulez, c'est comme un petit Faust de Goethe, si vous voulez, un Faust de promenade. Et c'est un texte extraordinaire. Voilà, donc Starobinski, pour moi, ça a été une rencontre très très importante. C'était dans les années 90, et le texte finalement qu'il a écrit sur Rousseau dans dans les années 50 m'a beaucoup, m'a amené indirectement, je vais vous dire la vérité, je l'ai jamais dit ça d'ailleurs, à l'écriture des années 50 dans le théâtre, en Europe, en France et aussi aujourd'hui aux États-Unis, c'est-à-dire Les Sorcières de Salem, pièce écrite en 52 sur la chasse aux sorcières.
On reparlera des Sorcières de Salem tout à l'heure, Emmanuel de Marcimota. Dans les années 50, il y a un autre homme qui s'exprimait, qu'on va entendre d'ailleurs, Albert Camus. Albert Camus dont vous avez mis en scène il y a 2 ans l'état de siège. État de siège que vous avez voulu donner à voir à Paris à la suite des attentats du 13 novembre. On écoute Albert Camus.
J'essaie en tout cas, solitaire ou non, de faire mon métier. Et si je le trouve parfois dur, c'est qu'il s'exerce principalement dans la ces affreuses sociétés intellectuelles où nous vivons, où l'on se fait un point d'honneur de la déloyauté, où le réflexe a remplacé la réflexion, où l'on pense à coups de slogans et où la méchanceté essaie trop souvent de se faire passer pour l'intelligence. Je ne suis pas de ces amants de la liberté qui veulent la parer de chaînes redoublées, ni de ces serviteurs de la justice qui pense qu'on ne sert bien la justice qu'en vouant plusieurs générations à l'injustice. Je vis comme je peux dans un pays malheureux, riche de son peuple et de sa jeunesse, provisoirement pauvre dans ses élites, lancé à la recherche d'un ordre et d'une renaissance à laquelle je crois. Sans liberté vraie et sans un certain honneur, je ne puis vivre. Voilà l'idée que je me fais de mon métier.
La voix d'Albert Camus, c'était le 22 janvier 1958. Vous avez mis en scène l'état de siège, est dans une mise en scène particulièrement réussie. C'était il y a 2 ans, vous avez voulu le faire à la suite des attentats du 13 novembre et cette pièce résonne de manière extrêmement actuelle sur le plan politique, sur le plan de son message politique, Emmanuel de Marcimota.
Et pour moi, c'est très important. Est-ce qu'on vient entendre de Camus là me donne envie de passer une grande journée aujourd'hui. Je pense qu'on devrait entendre ces voix du XXe siècle. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure si vous m'autorisez sur cette question. Non, mais parce que on suit quand même le dialogue. Il faut pas tout, on peut pas tout traiter, mais cela donne envie, cela donne du courage. Je pense que j'ai eu besoin de revenir à Camus. Je dis revenir parce que quand j'avais 18 ans, j'ai monté, c'était une des premières mises en scène qui a compté pour moi, c'était Caligula de Camus. Je jouais le rôle de Caligula. Et je l'ai fait au lycée, j'avais 16 ans en fait. Et je l'ai fait au lycée à Paris. Et j'ai eu une chance extraordinaire de pouvoir réunir un groupe d'une vingtaine de camarades de lycée. Et on a monté ensemble dans un lycée à Paris. On répétait le soir, la nuit. On avait les clés du lycée, le proviseur du lycée. Non, mais je salue ces initiatives de l'enseignement, de l'éducation, des enseignants, quand ils font confiance aussi aux élèves. C'est-à-dire qu'il y a des programmes à suivre, mais aussi une confiance à donner. Et c'est la question dont parle Camus, finalement. C'est-à-dire comment vivre heureux, parce que c'est une chose très difficile que la question du bonheur chez Camus. Mais il faut alors le théâtre pour lui. Chez Camus, il défend l'idée du théâtre. C'est un homme qui aime le théâtre. Il défend le sport. Il aimait le football. Et il aimait le fait de faire ensemble des choses. Et quand il dit comment travailler sa propre liberté, c'est essentiel. Donc, il dit bien aussi que ce 20e siècle, je pense, dans lequel nous sommes en train de finir, nous finissons le 20e siècle. Je pense que le 21e siècle n'a pas démarré et que je vais y venir par rapport à la question des tours de 2001 et la question des attentats après de Paris du 13 qui m'ont poussé à revenir à du 13 novembre, pardon, le Bataclan qui m'ont poussé à monter cette pièce d'Albert Camus qui s'appelle L'état de siège qui a été écrite en 1948. Cette pièce est écrite 3 ans après la Seconde Guerre mondiale, après les atrocités innommables de ce que des êtres humains ont été capables de faire à d'autres. Et on ne peut pas oublier, on a un devoir de connaissance de l'histoire pour essayer de passer à l'avenir. Et y compris sur notre propre Europe, parce que les malheurs du XXe siècle sont des malheurs que l'Europe produit. Et si aujourd'hui on parle d'Europe, c'est aussi de se souvenir que l'Europe peut être le berceau d'une monstruosité terrifiante. Bien sûr, dans d'autres pays du monde, bien sûr on parle de Trump, et on s'en moque, mais attention, l'Europe a produit des atrocités innommables. Donc nous avons en notre sein la capacité de refaire naître les pires chose. C'est ce qui est dit dans l'état de siège. C'est-à-dire, la peste n'a pas disparu. Et c'est pour ça qu'il écrit le roman La Peste. Et il faut faire attention, parce qu'on peut confondre souvent l'idée du dialogue et l'idée de la polémique. Et ça n'est pas la même chose. Il faut défendre le dialogue, l'échange et se méfier de la polémique pour la polémique.
Et alors dans la pièce de Camus, donc, il y a la mise en place d'un État totalitaire, il y a une vision assez satirique de cette manière de se mettre en place pour cet État totalitaire. Ça peut rappeler par exemple Ubu d'Alfred Jarry. Et il y a cela et puis il y a des résonances avec ce que l'on observe aujourd'hui en Europe, Emmanuel de Marcimota.
Bah oui, parce que la question, justement, c'est de partir de cette idée que, comme je le disais, qu'il faut se souvenir que la peste, comme dit Camus, n'a pas disparu. Et donc, qu'à tout moment, les choses peuvent renaître et peuvent réarriver. Que le pire est toujours possible. Et d'ailleurs, quand on dit que tout est possible, avec Camus, j'ai toujours aimé quand il dit ça, il dit « mais si tout est possible, alors le pire est possible ». C'est-à-dire que l'idée de tout est possible est une belle et une grande idée. Mais alors, il faut accepter que le pire est possible et que l'on peut revoir ressurgir dans chaque ville, parce que c'est le sujet de Camus, le pire de l'homme.
Emmanuel de Marcimota, vous êtes franco-portugais. Quelle est la situation, justement, au Portugal? On a évoqué tout à l'heure une montée du populisme au Portugal. Vous n'aviez pas l'air d'être d'accord.
Oh non, oui, c'est-à-dire, vous avez évoqué, dans l'interview plus précisément que j'ai entendue d'une portugaise aujourd'hui, je connais très bien la situation politique portugaise, ce que j'appelle la situation politique, c'est les rapports de force, comme on dit, politiques, qui font que le Premier ministre portugais, António Costa, a réussi de manière admirable un équilibre dans un pays qui avait été frappé de manière extrêmement violente par la crise de 2008, et cette crise que nous avons subie aussi en France et ailleurs. Et donc cette crise au Portugal, comme en Grèce, vous connaissez l'histoire, enfin je pense que nos auditeurs aussi, je ne vais pas la développer depuis 2008, a été très dur pour beaucoup de pays européens.
Qu'est-ce qui s'est passé au Portugal? Dans votre pays, vous avez deux pays, la France, le
Portugal. Oui, parce que ma mère est portugaise. Ma mère était une comédienne au Portugal extrêmement connue, très admirée. Mon oncle dirige un théâtre à Lisbonne qui s'appelle le Théâtre de la Commune. Ils ont vécu sous le fascisme et la dictature de Salazar. Je vous rappelle que Salazar, c'est une des plus longues dictatures d'Europe. La plus longue, pardon, dictature d'Europe. Mais c'est une... Bon, avec, ça mériterait de développer sur ce sujet, mais c'est pas votre question. La question, elle est que en 2008, le Portugal, et avec la pression d'ailleurs de l'Europe et de Bruxelles, a contraint énormément le pays, c'est-à-dire à baisser les retraites, les pensions de retraite de plus de 10%, voire 20%, ce qui serait inimaginable en France, à baisser les salaires de la fonction publique de manière extrêmement importante pour justement essayer de rembourser cette fameuse dette, la fameuse dette des pays de l'Union européenne avec une contrition, une décision extrêmement dure de Bruxelles. Donc,
la situation était terrible. On disait par exemple que tous les jeunes portugais s'exilaient, qu'il y avait une crise absolument épouvantable au Portugal,
oui,
à l'époque.
La difficulté et l'espoir, disons les choses, la difficulté et l'espoir pour l'avenir, pour la jeunesse, étaient ébranlés. Et ça, c'est très dangereux. C'est-à-dire qu'il faut faire très attention, sans être des optimistes forcenés, moi je ne le suis pas, il faut faire très attention à ne pas rendre trop inquiet une jeunesse qui alors serait amenée à ne plus croire en rien et à partir toujours. Donc on a eu cette situation.
Mais alors comment vous expliquez ce retournement
positif?
Pour
positif.
Vous, le retournement positif, absolument.
Il a été économiquement
comment
positif. L'expliquez-vous? L'inquiétude, elle est pour demain par rapport aux élections européennes. Je veux dire, le sujet aujourd'hui qui doit nous importer, c'est que nous avons, puis si nous considérons que nous sommes européens, et je pense que c'est le grand sujet, c'est définir qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être européen. Parce qu'il y a plein de manières d'être européen. On le voit bien, y compris les partis d'extrême droite en France ou ailleurs, reconsidèrent finalement la question en disant on peut être européen à partir d'une Europe des nations. C'est-à-dire qu'ils ont bien calmé leur jeu, etc. Donc, au Portugal, on a vu un équilibre politique se faire de manière très importante grâce à António Costa, et aujourd'hui, les résultats sont très positifs. Donc l'inquiétude d'une montée des nationalismes au Portugal est franchement pas la priorité. Mais c'est un pays qui est stable sur cette question.
Comment l'expliquez-vous? Comment expliquez-vous le fait qu'on soit passé d'une situation qui était extrêmement tendue, très précaire, avec un pays qui était dans une crise profonde, à une situation où aujourd'hui le Portugal est finalement dans une situation plutôt enviable? Vous voyez, ça pourrait donner des idées à des pays qui traversent des crises en Europe.
Tout à fait d'accord, mais il est même enviable, je veux dire, par rapport à la France, j'ose le dire, et ça c'est pas parce que j'ai une moitié portugais en moi, pas du tout, je suis pas un nationaliste portugais, donc c'est pas la question elle est que le Portugal aujourd'hui réussit, et c'est ça qu'il faut observer, on devrait être des meilleurs observateurs en France et se tourner vers ceux qui réussissent et regarder et faire attention à ceux qui risquent de glisser dans cette montée nationaliste au sein des pays de l'Europe en vue de ces élections du mois de mai. Mais au Portugal, ce qui a été réussi, c'est que justement, il y a eu un équilibre politique où un dialogue politique a pu se faire entre le centre, pour être clair, la gauche et la droite. Donc, il y a eu quand même des décisions qui ont été prises qui permettent de sortir le Portugal de la crise, d'avancer en termes de responsabilité, mais de redonner confiance à un peuple.
Quelles ont été les décisions politiques importantes au Portugal?
António Costa et son gouvernement, d'abord, a su dialoguer avec la gauche portugaise, entre le PS, puisqu'il est au Parti Socialiste, et c'est le leader du Parti Socialiste, et un très grand, important leader au sein de l'espace européen. Il a su, avec son aile gauche, je dirais, trouver un dialogue qui fait que, bien sûr, on a refusé de parler de manière trop populiste de l'Europe, on a fait attention à maintenir un cap qui soit extrêmement clair quant à la question, justement, de la redistribution économique, tout en donnant des gages à Bruxelles et en s'engageant sur redresser des déficits. Donc ce point d'équilibre, il a été trouvé. Et on peut le trouver. La preuve, on regarde sur le Portugal comment ça a été fait. Deuxièmement, beaucoup de choses ont été mises en place du côté de la culture, du côté de l'éducation. Pour aider les nouvelles générations. Eh bien, il y a eu un grand plan national pour l'éducation et une grande réforme de l'éducation, qu'on appelle l'éducation nationale en France. Là-bas, il n'y a pas le mot national. Hein. C'est l'éducation, point. Et cette éducation pour tous, avec une grande ouverture sur les pays extra-européens qui sont les anciennes colonies. Pour être clair, portugaise. Le Portugal a des anciennes colonies comme l'Angola, le Mozambique, et le lien justement avec ces anciennes colonies d'Afrique a été retravaillé, repris entièrement pour que les nouvelles générations ne soient pas dans des tensions quant à cette question, c'est-à-dire la question de l'immigration. Deuxièmement, un grand plan a été mis en place sur la culture, qui a été un plan extrêmement important pour donner aussi la possibilité à des créateurs de travailler aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas. Et enfin, des réformes sociales fondamentales ont été mises en place.
Emmanuel de Marcimota, quand vous comparer la situation au Portugal et en France, pourquoi a-t-on l'impression, à tort, à raison, que la situation est plus apaisée au Portugal ?
C'est difficile de répondre à cette question, mais c'est très important. Au Portugal, du point de vue politique, effectivement, je le disais, je pense que le Premier ministre portugais, António Costa, a réussi un équilibre extrêmement périlleux, et d'ailleurs les journalistes en France le disent, puisqu'ils disent que c'est un équilibre politique quasiment unique qu'on n'a jamais vu, puisqu'il arrive à gouverner avec l'extrême gauche d'un côté, puis la droite, le centre droit. Mais la tradition xénophobe, antisémite qui connaît la France, le Portugal ne la connaît pas de la même manière.
Pourquoi ?
Faut dire aussi les choses.
Parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie, il y a aussi la société.
Oui.
Et justement,
oui.
Vous qui connaissez bien oui. La société portugaise, quelle est sa spécificité? Vous avez connu l'une des plus longues dictatures d'Europe. Pourquoi y a-t-il aujourd'hui cette apparence ou cette réalité,
vous non, en direz, c'est une réalité.
Et de démocratie, de société apaisée, où on a l'impression qu'il fait mieux vivre qu'ailleurs pour l'instant.
Parce que cette question justement du repli identitaire n'est pas, il n'y a pas cette angoisse, si vous voulez, profonde de se dire qu'on va être décadent, qu'on va perdre ce qu'on a créé, ce qu'on a été, ce qui est des fois quelquefois en France, c'est ce qu'on entend dans d'autres pays européens, d'où cette volonté nationale souvent de se dire on doit alors retrouver la grandeur du passé. Mais ce sont des mythes, il faut regarder l'avenir, il faut regarder la planète telle qu'elle est. Et le Portugal sait aujourd'hui qu'il ne s'agit pas de ça. Il s'agit par contre d'être attentif à ces nouvelles générations, qu'il s'agit de redonner espoir à une jeunesse, que cette jeunesse, elle peut être plurielle dans son identité, que son identité est profondément plurielle, qu'on peut avoir le goût de son pays et être fier, comme on dit, de son pays et de sa langue, mais que notre propre langue est faite aussi de la culture des autres et que ce rapport à l'autre, ce rapport, y compris extra-européen, à des pays qui sont comme, ou des continents comme l'Afrique, ou l'Asie, c'est-à-dire cette grande culture du voyage et de la compréhension de l'autre, qui est dans la poésie portugaise d'ailleurs, et qui amène à une douceur du rapport à l'autre et à la relation, c'est-à-dire travailler contre l'agressivité, faire attention à ne pas être dans notre propre quotidien agressif dans le rapport à l'autre, avoir une attention pour les générations, faire attention aux plus âgés d'une société, trouver une douceur et ne pas être dans cette idée du dégagisme permanent. Eh bien, en France, aujourd'hui, on prend des risques à ces endroits-là, puisque on ne combat peut-être pas assez cette agressivité. On aime la polémique permanente. Mm-hmm. Et il faut faire attention, je pense qu'il faut
une tradition plus violente. Vous avez beaucoup travaillé
oui,
sur la violence
tout à fait.
Au théâtre.
C'est mon sujet, la violence, si vous voulez, dans les sociétés, à travers Rhinocéros, quand je montre Rhinocéros, écrit par Ionesco, qui est justement un Roumain, qui a vu la montée des extrêmes, qui a vu son père devenir un fasciste, qui a vu comment l'homme peut se transformer et devenir un autre et une bête monstrueuse. On ne doit jamais oublier ces tendances qui sont profondes, archaïques, en chacun et dans des peuples, et qui peuvent alors devenir extrêmement dangereuses. Donc, il faut, je pense que c'est très attentif. Il est important quand le président de la République lance cette idée de cette concertation où chacun doit pouvoir s'exprimer. Eh bien, c'est un moment positif. Il faut l'utiliser. Il faut, et je regrette par contre clairement que la culture n'ait pas été mise au centre aussi de la question.
Pourquoi, d'après vous ?
Mais parce que tout le monde aujourd'hui parle du social. Et c'est important, parce qu'il y a une inquiétude. Mais il faut aussi ajouter à cela, ça ne va pas contre. Les populistes sont ceux qui opposent, si vous voulez, la question sociale à la question culturelle. Comme si la culture était réservée pour une élite. C'est des vieux discours, c'est une vieille approche. Mais on l'entend encore en France. C'est-à-dire ce besoin de diviser pour exister. Non, la culture, elle doit être pour tous. Dans le grand débat, on aurait dû avoir un grand débat sur qu'est-ce que c'est que la culture pour tous, quelle est la place de la jeunesse dans la culture, quelle est la place de la création et quelle est la place de l'éducation artistique. Comment on peut transformer l'école par l'art et l'art peut transformer aussi l'éducation.
8h29 sur France Culture, deuxième émission consacrée à l'élection européenne en compagnie d'un grand témoin, Emmanuel de Marcimota. Vous êtes metteur en scène franco-portugais. J'ai fait vos poches, j'ai trouvé la sorcière de Michelet. Vous avez une passion pour les sorcières et peut-être peut-on relier cette passion, le fait que vous avez monté les sorcières de Salem, avec aussi cette sensation que nous avons d'une montée de l'irrationalité, Emmanuel de Marcimota.
Oui, absolument. Je vous remercie d'employer le mot, c'est-à-dire aujourd'hui une montée de l'irrationnel, c'est-à-dire quand Arthur Miller, qui écrit Les sorcières de Salem dans les années 50, je vous disais que j'ai une grande passion pour des auteurs et des pièces qui sont peu jouées, parce que ça nous permet d'entendre, quand je fais L'état de siège d'Albert Camus, qui est une pièce écrite en 48, Le rhinocéros est une pièce écrite au milieu des années 50, Les sorcières de Salem, c'est une pièce écrite en 53, qui part d'un fait réel à Salem, dans la ville de Salem aux États-Unis, où en 1692 des filles vont être condamnées et des femmes vont être condamnées pour sorcellerie. Et Michelet écrit un texte extraordinaire qui s'appelle La sorcière et qui est quelque chose vraiment que je vous invite à lire pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un texte fantastique sur justement la peur des hommes que les hommes ont de certaines femmes en particulier et cette peur irrationnelle de la femme et qu'on va condamner pour sorcellerie. Et vous savez qu'en Europe, beaucoup de jeunes femmes, même des adolescentes, ont été condamnées à mort parce que tout à coup on les a traitées de sorcières. Donc cette dimension irrationnelle qui est celle finalement, je dirais, qu'on retrouve des fois, et aujourd'hui, qui est présente, je pense, à travers l'idée de la rumeur, la dénonciation permanente, le besoin de la stigmatisation, eh bien, c'est des choses qui existent depuis longtemps. Et il y a un retour de l'irrationnel dans un moment qu'on pensait rationnel, et je pense que cette entrée dans ce 21e siècle est extrêmement difficile, et qu'il faut alors être attentif aux mécanismes de l'irrationnel.
Et chez Michelet, justement, il y a aussi un mythe, il y a une histoire du peuple, il y a une attention portée au peuple. On reparle beaucoup de Michelet actuellement puisqu'il est publié en Pléiade. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, le peuple, Emmanuel de Marcimota ?
C'est un mot qu'il faut toujours redéfinir. Et alors, dans le théâtre, en France, on le sait, c'est important, puisqu'on a rêvé d'un grand théâtre national populaire. Jean Villard, après la Seconde Guerre mondiale, mais déjà avant, entre les deux guerres, on avait employé ce terme de l'idée, justement, du populaire. Mais attention, il faut alors considérer, avec beaucoup de précision, ce que peut être le peuple. Et le peuple, c'est-à-dire tous, c'est-à-dire les citoyens, tous les citoyens, alors, qui font le pays. Et le mot peuple raccordé au mot pays. Et c'est important, alors, de pouvoir considérer, si je prends, moi, du côté de la culture, et des arts, qui est l'endroit où j'essaye d'agir, où j'agis, je dirais comme metteur en scène, mais comme directeur évidemment d'institutions aussi, avec beaucoup d'autres, eh bien c'est de pouvoir rassembler tous les âges de la vie. Tous les âges de la vie, quand je lance ce parcours enfance et jeunesse, c'est de considérer que justement on doit commencer et donner la chance dès le plus jeune âge. Que l'égalité des chances, elle commence par l'école de la République. Que cette école de la République, on doit y être très attentif et on doit savoir la défendre, y compris quand on est un artiste et on doit s'engager à être présent dans le rapport d'éducation artistique. Que l'enfant, dès le plus jeune âge, a le droit comme au meilleur. Et peu importe la classe sociale, justement. Le deuxième élément, au-delà des âges de la vie, c'est justement les classes, ce qu'on appelait les classes sociales. Et que chacune et chacun, d'où ou qu'il soit né, quelle que soit sa famille, a le droit justement à pouvoir découvrir une œuvre du passé, du présent et s'interroger sur son avenir à travers les poètes de l'Europe, à travers notre culture européenne. Et enfin, ce qui fait peuple aussi, c'est d'où vous venez. Qui êtes-vous ? D'où viennent vos grands-parents ? Est-ce qu'ils viennent d'Algérie ? Est-ce qu'ils viennent du Sénégal ? Est-ce qu'ils viennent de Tunisie ? Est-ce qu'ils viennent de Côte d'Ivoire ? C'est-à-dire ce que la France a eu, c'est-à-dire des anciennes colonies et des rapports extra-européens. Et que notre Europe aujourd'hui, peut-être, il faudrait considérer clairement que vous pouvez être noir et européen et même je dirais, d'une autre religion que la religion catholique. Et c'est ça qui fait Europe. Et il faut alors faire peuple. Et pour faire peuple, c'est là qu'on peut s'interroger sur qu'est-ce qu'être populaire. Et ça demande une réelle réflexion et un accompagnement pour considérer alors que tout le monde a sa place et que tout le monde peut être européen à partir du moment où nous avons bien clarifié qu'est-ce que c'est que les valeurs européennes. Lutter contre la peine de mort, oui, dans l'espace européen, au Portugal, en France et ailleurs, la peine de mort a reculé heureusement. Ce sont les grandes questions essentielles, c'est-à-dire des lois, des défenses que nous avons de tous les citoyens et de l'égalité, qu'elle soit homme-femme, ce qu'on appelle la parité aujourd'hui en France, de l'égalité des chances pour tous dès le plus jeune âge. Il y a des valeurs européennes et le combat doit être mené sur ces valeurs. Et à un moment, il ne faut pas se tromper. Sinon, on devient un petit peu populiste, limite poujadiste, et la France a connu ces mouvements-là. Il faut faire très attention aujourd'hui. Et c'est pas parce qu'on défend une idée populaire qu'on est populiste. Il faut bien distinguer les choses.
À cet égard, Emmanuel de Marcimota, on a débuté cet entretien en parlant de Camus. Camus est une belle figure pour résumer l'Europe que vous appréciez, l'Europe dont vous aimeriez voir en quelque sorte l'incarnation de manière peut-être plus éclatante.
Mais oui, puisque Camus, c'est l'Algérie et la France. Camus, c'est la grande question pour ce pays au XXe siècle, puisqu'il est il est né en Algérie. Comme je disais, Ionesco, il est né en Roumanie. Camus aujourd'hui, peut-être plus que Ionesco, dans nos interrogations, puisque Albert Camus, c'est le rapport entre deux pays, deux peuples, et la manière dont nous pouvons travailler à une fraternité. Vous savez, le mot liberté, égalité, fraternité, ce qui nous constitue. La difficulté, c'est que la liberté, on peut faire des lois, l'égalité, nous devons faire des lois pour l'égalité, mais la fraternité, là, c'est aux citoyens de la constituer. On ne peut pas tout attendre du politique.
Emmanuel de Marcimota, vous êtes metteur en scène franco-portugais. C'était la seconde fois qu'on évoquait l'Europe avec un grand témoin. On va continuer à évoquer l'Europe, ou en tout cas la figure d'un Européen qui a été follement amoureux des lettres, Jean Starobinski, qui nous a quittés hier à l'âge de 98 ans. Et nous sommes en ligne avec notre camarade Alain Finkielkraut. Bonjour Alain.
Oui, bonjour. Bonjour Guillaume Erner.
On va entendre justement la voix de Jean Starobinski évoquer l'un de ses maîtres, Marcel Raymond. On écoute la voix de cet homme.
Cette passion, oui, elle a pris forme quand j'étais collégien. Nous habitons, Genève est une ville très, très resserrée. Nous habitions une rue qui était le trottoir d'en face de celui où se trouvait l'université de Genève. Et jeune, je me hasardais dans les couloirs de l'université, et à l'époque, je me suis aperçu qu'on pouvait se faufiler au cours de Marcel Raymond. Bien sûr, Rousseau figurait parmi ses enseignements. Je me rappelle surtout la lecture par Marcel Raymond de certains passages des Confessions, admirablement choisis. Ainsi, l'amour est perdu, l'amour vain et trop audacieux de Rousseau pour Sophie Loudetot. Et ça faisait partie donc d'autre chose que du livre que l'on tire d'une bibliothèque. C'était une écoute.
La voix de Jean Starobinski. Alain Finkielkraut, si vous deviez présenter Jean Starobinski à quelqu'un qui ne le connaîtrait pas, qui n'aurait jamais eu l'occasion de lire ses œuvres, que diriez-vous ?
Alors, je dirais d'abord qu'il avait vraiment une très belle voix. Vous avez bien fait de passer cet extrait, une voix raffinée, une voix distinguée, la voix d'un grand Européen, dans la mesure où l'Europe, ce ne sont pas simplement des valeurs, mais un certain rapport à la culture. Alors pour le présenter, il faut dire que Starobinski était à la fois littéraire et médecin. Mmh. Il savait combiner de manière inégalable l'érudition et la perspicacité, une connaissance technique exhaustive des choses et une vision des grands problèmes. Et j'ajouterais que, si vous voulez, c'était un médiateur, c'est encore, puisque son œuvre est là, un médiateur indispensable. Les grands textes, nous avons besoin de médiateurs pour les aborder, et s'il y a des étudiants ou des lycéens qui nous écoutent, je les adjure, par exemple, de lire son livre sur Rousseau, dont il parle là. Son livre, Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle. C'est un livre qui nous donne accès à cette œuvre, précisément parce qu'il s'est abordé, Rousseau, à la fois comme un un individu singulier, avec une finesse psychologique sans égale, et comme un penseur, avec une très profonde intelligence philosophique. Et aucune perspective, si vous voulez, ne l'emporte sur l'autre, ce qui est un véritable exploit. J'ajouterais, à propos de Sarobinski, que son œuvre s'est épanouie à l'époque du structuralisme ou du post-structuralisme, où on disait que tout est texte, que le texte est tout. Starobinsky a eu le mérite de dire que les œuvres font signe au-delà d'elles-mêmes, de ne jamais oublier le monde et ce que notre appréhension du monde doit à la littérature. Alors, est-ce que j'ai le temps encore de...
Bien sûr, oui, absolument, vous l'avez.
Alors, oui, parce que et il a eu des conversations avec Gérard Massé, d'ailleurs sur France Culture, je crois. Elles ont été publiées sous le titre « Emprunté à Montaigne ». La parole est moitié à celui qui parle, pour 3 points de suspension, et on sait, c'est moitié à celui qui écoute. Et là, il parle de la peinture. Ça fait de la peinture, il dit qu'il a éprouvé de l'admiration pour les œuvres abstraites de Poliakov ou de Rodko, mais, et là je le cite, « je reste assez inquiet de la disparition d'un rapport à la terre dans beaucoup de productions de la peinture contemporaine, ou dans les montages divers qui se substituent à la peinture. Cette terre dont nous avons tellement le souci n'est-elle décidément plus représentable? N'y a-t-il plus de paysage? Faut-il que la peinture, au lieu de représenter le contre-courant, s'inscrive au contraire dans un processus d'effacement de la terre? Je me pose beaucoup de questions. » C'est pas un spécialiste de peinture, mais ça c'est quand même Starobinsky, si vous voulez. Ça en dit long sur sa sensibilité. La littérature est là pour nous rappeler la terre, pour représenter la terre, et la peinture pour nous représenter la terre, et la littérature pour justement approfondir notre contact avec le monde.
Une réaction, Emmanuel de Marcy-Motta, à ce que vient de dire Alain Finkielkraut et à la mémoire de Jean Starobinsky.
Bah oui, je suis d'accord sur cette idée d'approfondir notre rapport avec le monde grâce à la littérature, à la peinture, au théâtre, c'est évident, c'est extrêmement important, et j'ai eu la chance, comme je vous l'ai dit, de rencontrer Starobinsky lorsque j'étais à Genève, étudiant, enfin que j'avais été à la Comédie de Genève plus exactement, au théâtre, et il travaillait un peu, et la discussion avec Jean Starobinsky était autour de ce livre extraordinaire, autour de pour découvrir effectivement toute cette pensée qui est la transparence et l'obstacle, qui est ce livre qui nous permet justement de rentrer dans la pensée de Rousseau tout en étant dans une dialectique très forte, mais aussi le dialogue autour de cet auteur merveilleux qui est Ramu, qui est Charles-Ferdinand Ramu, peu connu, auteur suisse, qui a inventé... Bien connu des Suisses, et qui a été connu grâce à l'histoire du soldat, avec cette idée de la rencontre entre le soldat qui est déserteur et le diable, et cette particularité, justement, qui est la rencontre avec le diable, et je dirais les sujets dont nous parlions tout à l'heure, qui est aussi la montée de l'irrationnel. Et on voit bien que cette question de l'irrationnel, aujourd'hui, est très profonde, très ancrée, et se développe à une vitesse grand V en Europe, et il faut y être très attentif, parce que c'est des mécanismes, finalement, si on les observe, que nous connaissons bien à travers la littérature.
Alain Finkielkraut, dans le métier de Jean Starobinsky, vous l'avez présenté comme un médiateur, comme celui qui passait les textes. Il y a quelque chose également qui est en crise. On a beaucoup parlé de crise de la critique littéraire. On comprend de moins en moins pourquoi il faut des médiateurs, pourquoi on ne peut pas avoir un accès direct à Rousseau, à Stendhal ou à Racine. Qu'en pensez-vous? Que dire à ceux qui ignoreraient encore l'intérêt de lire de la critique littéraire?
Ah bah écoutez, cela malheureusement risque aussi de se détourner des grandes œuvres auxquelles la critique littéraire nous donne accès. Donc je pense que ces médiations sont absolument indispensables, mais la crise dont vous parlez vaut aussi pour la littérature d'aujourd'hui. C'est Kundera qui disait que les écrivains avaient besoin de cet arrière-fond critique eux-mêmes pour penser leur œuvre. Et c'est en train de disparaître. La critique littéraire n'occupe qu'une portion congrue dans les revues, par exemple. Et les temps modernes, c'était une revue très engagée. Il n'empêche que la critique littéraire, il y avait une grande place. Ce n'est pas vrai, ou de moins en moins vrai des très bonnes revues d'aujourd'hui, de même les journaux. Voyez ce qu'est devenu la critique littéraire à l'Obs, anciennement Nouvel Observateur. Elle n'existe quasiment plus. Et ça fait vraiment beaucoup de peine parce que les lecteurs tâtonnent, si vous voulez, à cause de cela. Or, nous avons tous besoin de guides. Il faut avoir cette modestie.
On va entendre une seconde fois la voix de Jean Starobinski, Alain Finkielkraut.
Je viendrai ce livre à la main devant le Seigneur. Les confessions sont écrites pour être lues par Dieu, en quelque sorte. Il les a lues dans les salons, bien entendu, mais en évoquant le regard de Dieu sur lui, et qu'un autre vienne et dise « je fus meilleur que celui-là », n'est-ce pas ? Donc, il y a un superlatif de la bonté que Rousseau revendique pour lui, mais parce qu'il y a un superlatif de la monstruosité qu'il sent peser sur lui dans le regard des autres.
Jean Starobinski, parlant de Rousseau, il appartenait à une culture, Alain Finkielkraut, qui était donc avant tout centrée sur la littérature, sur la peinture, sur la psychanalyse aussi. Autrement dit, deux piliers qui sont aujourd'hui deux piliers fragiles, en péril.
Oui, enfin, la psychanalyse et même la médecine en général. Il a écrit un très grand livre sur la mélancolie, Starobinski, si vous voulez. Il y a un physicien anglais, Percy Snow, qui a parlé des deux cultures, la culture scientifique et la culture littéraire, qui se regardent en chien de faïence. Une troisième culture est survenue, celle des sciences sociales. Mais justement, Starobinski avait le mérite extraordinaire d'appartenir à l'une et l'autre. Il n'était pas un scientifique, mais c'était un médecin. Et c'était un essayiste aussi. Et le mot est important parce qu'il le revendique dans ses conversations dont j'ai parlé avec Gérard Massé. Il dit, oui, on considère les essayistes comme des aimables causeurs, des amateurs, alors qu'on leur oppose des chercheurs rigoureux. C'était un chercheur rigoureux, mais pour qui l'essai avait la valeur d'un coup de lumière. Voilà, c'est ça. Il donnait des coups de lumière à partir de ses recherches très rigoureuses. Et là aussi, il y a un art de l'essai qu'il a incarné très bien et qui risque de se perdre. Et d'ailleurs, il faut ajouter que l'un de ses grands livres porte sur l'inventeur, si l'on peut dire, de l'essai à la française, c'est-à-dire Montaigne.
Justement, est-ce que c'est le livre que vous conseilleriez de lire pour un auditeur qui n'aurait pas encore lu Starobinski, Alain Finkielkraut ?
Non, moi je lui conseillerais encore une fois la transparence et l'obstacle. Et peut-être aussi un recueil qui s'intitule « Le remède dans le mal ». Et avec notamment un très très beau chapitre sur le concept de civilisation. Voilà, je dirais Le remède dans le mal et Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle. Voilà pour accéder à Starobinski, et puis ensuite c'est une œuvre qui peut vous accompagner toute la vie, avec notamment un très beau texte illustré qui était paru dans la collection Skira, qui était Portrait de l'artiste en saltimbanque.
Merci beaucoup Alain Finkielkraut